France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et tous, et très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Entendez-vous l'écho. Comme toujours, trois rendez-vous pour une heure d'émission afin de tout comprendre à l'actualité et à l'histoire économique dans une émission préparée par Anouk Miliot et réalisée et mise en onde par Sorge Leroy.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des retraites.
Gabriel Attal, qui mardi dernier voulait nous parler des retraites depuis sa chaîne YouTube et a proposé d'inciter à une part de capitalisation pour contourner les difficultés que pose la question de l'âge du départ à la retraite. Le lendemain, la suspension de la réforme de 2023 était votée à l'Assemblée nationale, une suspension depuis supprimée samedi en commission au Sénat. Les débats en séance publique auront lieu après-demain et partout se pose la question de la méthode qui permettrait d'avancer sur ce sujet brûlant. Quel crédit accorder à la capitalisation comme solution ? Nous en parlerons avec nos deux invités, Marie Brière et Florence Legros. Et puis ces débats dans les arènes politiques interrogent peut-être plus que jamais sur le poids de la parole des économistes. Alors on a voulu se poser la question, depuis quand ces derniers se déclarent-ils experts en leur matière ? Et au nom de quoi, au juste, écoutez cette expertise, de quoi est-elle faite ? D'où nous parlent les experts économistes ? Nouveaux lieux, nouveaux outils, nouveaux hommes, nous avons décidé de consacrer toute une série d'émissions à la question. Et on commence aujourd'hui par le commencement, dans la période trouble et agitée de l'entre-deux-guerres, où l'on prend conscience qu'avoir une bonne connaissance de l'économie est aussi un atout stratégique. Et enfin, à 14h55, il sera l'heure de retrouver le fil de l'écho avec l'inénarrable Arnaud Aurin. Mais avant cela, une parenthèse pour revenir, comme toujours, comme tous les lundis, sur l'actualité de la semaine passée. En France, les débats budgétaires, je le disais à l'instant, ont occupé une bonne part de l'attention. Le vote de la partie recette du projet de loi de finances 2026 aurait dû avoir lieu aujourd'hui. Ce ne sera pas le cas puisque ce week-end, une pause a été bien généreusement accordée aux députés. Avant cela, jeudi dernier, Amélie de Montchalin a eu le temps d'annoncer la création d'une mission d'urgence confiée à tous les services de Bercy afin de mener l'enquête pour résoudre une question de plus en plus préoccupante, où sont passés les 10 milliards manquants de la TVA ? Car c'est un fait, les recettes de cette taxe sur la valeur ajoutée ont décru largement en 2025, alors même que le gouvernement tablait sur une hausse de 4,7% par rapport à 2024, et alors même que la consommation progresse, alors certes, faiblement, mais progresse tout de même. Le coupable pour Amélie de Montchalin, ce sont les petits colis envoyés depuis la Chine par les géants Chine ou Temu, exonérés de droits de douane dès lors que leur valeur est inférieure à 150 euros. Une piste qui ne suffit pas quand même à expliquer l'écart observé, mais il n'en reste pas moins que les ministres des Finances de l'Union européenne ont décidé le 13 novembre dernier de supprimer cette exemption, même si la mesure ne devrait pas s'appliquer avant 2028. En attendant, il nous reste toujours la voix du fameux restaurateur Jacques Borel qui vantait les mérites toute proportion gardée de la TVA.
Je suis réellement l'homme qui a fait la TVA pour les restaurants, les hôtels et qui a permis cette expansion extraordinaire. Puisque avant, on ne pouvait pas récupérer les TVA sur investissement. La conséquence était qu'on n'investissait pas. Savez-vous que la France, Paris, n'a pas construit un seul hôtel entre 1938 et 1961. Pourquoi ? Parce que les hôtels étaient taxés à la taxe locale, ne pouvaient pas récupérer la TVA. À partir du moment où on ne pouvait pas récupérer la TVA, l'hôtel ne pouvait pas être rentable. Savez-vous qu'avant qu'on ne baisse la TVA en France, 41% de ce que vous consommiez dans un restaurant, c'était des taxes. Et les taxes, c'est très indigeste.
Une TVA essentielle donc. Ailleurs aussi, on se demande comment remplir les caisses de l'État et comment mobiliser l'argent qui dort. Le Financial Times nous apprenait il y a 3 jours que le gouvernement de Giorgia Meloni tentait d'inciter les ménages à vendre leur stock d'or, quand bien même l'origine de ces derniers ne serait pas tout à fait certifiée. Jusqu'ici, la démarche était lourdement taxée, de l'ordre de 26%, une taxe qui devrait être abaissée à 12,5% et permettrait à ces bijoux, pièces et autres petits lingots sans pièces d'identité de revenir dans les circuits. Une démarche qui pourrait rapporter 2 milliards d'euros à l'État italien. Rendre l'argent productif en le faisant sortir de façon productive aussi, c'est ce qu'a essayé de faire. C'est le pari de la Banque centrale tchèque qui a annoncé vendredi soir acheter 1 million de dollars de crypto-monnaie, dont du bitcoin. C'est une première pour une banque centrale au sein de l'Union européenne. Alors le bitcoin peut-il être associé à une version numérique de l'or ? La question avait été posée à Christine Lagarde le 7 octobre dernier et sa réponse était un peu plus claire.
Bitcoin be like a digital form of gold.
Okay. No.
La décision tchèque ne devrait donc pas enchanter la présidente de la Banque Centrale Européenne qui incite à la prudence sur cette question. De prudence, il a aussi été question aux États-Unis. Michael Burry, personnage qui a largement inspiré la fiction et notamment le film The Big Short, dont on s'est beaucoup, beaucoup servi ici à Entendez-vous l'écho pour illustrer nos nombreuses émissions sur les origines de la crise de 2008. Michael Burry donc a fait part jeudi dernier de cette décision de fermer son fonds spéculatif Sion Capital, seule façon selon lui de faire face à une potentielle bulle de l'intelligence artificielle. Parfois la seule stratégie gagnante est de ne pas jouer. Voilà comment l'investisseur a expliqué sa décision sur les réseaux sociaux. Alors l'IA est-elle ou non une bulle? La question n'est pas tout à fait nouvelle, mais les signaux d'alarme le sont davantage. Un sujet dont mon collègue Quentin Laffay se saisira demain soir pour y voir plus clair. Et je ferme la parenthèse sur cette recommandation et nous plongeons quant à nous sur une idée qui, elle non plus, ne date pas d'hier, mais qui, elle aussi, retrouve une certaine jeunesse face à l'actualité. Cette idée, c'est celle d'un système de retraite fondé tout ou partie sur la capitalisation. Et une fois n'est pas coutume, on commence par une archive pour plonger au tout début des années 90.
Il y a actuellement en France 45 retraités pour 100 personnes actives, autrement dit presque une sur deux, ce qui est déjà beaucoup. Mais en mettant bout à bout un certain nombre de données statistiques indiscutables qui vont d'études de la pyramide des âges à celle du renouvellement des générations, en passant par bien entendu l'âge de la retraite, les spécialistes ont calculé qu'en 2010, c'est-à-dire dans une vingtaine d'années, autrement dit pratiquement demain, le nombre de retraités par rapport aux actifs ne sera pas de 45%, mais de 75%. Un véritable bouleversement non seulement démographique, mais aussi et surtout économique. En effet, c'est ni plus ni moins tout le problème du paiement des retraites qui est en question et qui doit donc dès maintenant, c'est-à-dire dès 91, être complètement reconsidéré. D'où un projet actuellement à l'étude dans les services de Pierre Bérégovoy, un projet quasiment révolutionnaire.
Les générations ne se renouvellent plus.
Maxime Sbeyi, économiste, le 16 octobre 2025.
Le taux de fécondité est à 1,6, le seuil de renouvellement c'est 2,1. Donc si vous voulez, tous les postulats sur lesquels on a fondé, on a bâti notre modèle social, aujourd'hui ne se vérifient plus. C'est une botte souveraine la démographie. Hein. Elle se fiche des conclaves ratées, elle se fiche des postillons démagogues, elle se fiche de l'ignorance, elle continue à avancer et elle refacturera demain tous les efforts qu'on refuse aujourd'hui.
On va développer ce qu'on appelle la capitalisation.
Gabriel Attal, secrétaire général du parti présidentiel Renaissance, le 11 novembre 2025.
Ça existe dans beaucoup de pays en Europe, ça existe aux États-Unis, ça existe en réalité dans beaucoup de pays dans le monde.
Aujourd'hui, les dépenses de retraite, c'est autour de 14 points de PIB.
Thomas Grébin, économiste au CEPI, le 11 novembre 2025.
Donc si vous vouliez passer entièrement à un système de capitalisation, ça veut dire que vous devez rajouter 14 points de PIB. Hein. On voit bien que passer entièrement à un système de capitalisation, c'est pas possible.
Pour nous, c'est non, c'est clair, puisque d'abord, c'est très coûteux pour les finances publiques.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, le 12 novembre 2025.
Et ensuite, c'est sans aucune garantie pour les salariés, puisque comme on le sait, le problème des retraites par capitalisation, le problème des fonds de pension, c'est qu'on n'est jamais certain de récupérer sa mise et qu'il suffit d'une violente crise financière pour que tout parte en fumée.
On le voit, l'idée d'introduire une dose de capitalisation n'est pas nouvelle. On pourrait même dire qu'elle existe déjà en France. Que nous apprennent les déconvenues rencontrées de la pertinence économique et sociale de ce projet? Retour sur les leçons à tirer de ces expérimentations avec nos deux invités. Marie Brière, vous êtes responsable du centre de recherche aux investisseurs chez Amundi. Vous êtes également chercheuse associée à l'Université libre de Bruxelles et vous présidez le conseil scientifique de l'Observatoire de l'épargne européenne. Bonjour à vous.
Bonjour.
Également avec nous depuis les studio d'ici à Nancy, Florence Legros, bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Et j'en profite pour remercier Pablo Marcon qui assure la liaison avec nous à Paris. Florence Legros, vous êtes économiste, directrice générale d'ICN Business School. Alors Florence Legros, la capitalisation revient sur le devant de la scène, la chose n'est pas nouvelle. Quel regard portez-vous sur cette relance du débat à l'heure des discussions qui sont évidemment très tendues sur la suspension de la réforme des retraites de 2023? Est-ce que c'est finalement une sorte de classique depuis les années 90 ou est-ce que c'est le signe que le système est véritablement arrivé à une sorte de point de non-retour selon vous?
Alors, c'est effectivement quand même un très vieux débat qui date de, effectivement des décennies. Peut-être revenir rapidement sur ce que disait Sophie Binet à l'instant, parce que ça peut faire un bon point de départ. En fait, elle a raison et elle a tort. Alors, elle a raison sur le coût que ça peut représenter pour les finances publiques, c'est-à-dire qu'en fait, elle soulève le problème de la transition. Aujourd'hui, le régime est majoritairement organisé en répartition, c'est-à-dire que mes cotisations d'aujourd'hui vont directement nourrir, entre guillemets, les retraités. Donc, bien évidemment, si je substitue un bout de cette répartition avec de la capitalisation, en fait, il va manquer quelque chose pour financer les retraites actuelles. Oui. Donc là, on voit bien que on soulève le problème de la transition, qu'une transition totale est totalement exclue, et que donc il faut trouver une solution à cette transition. Les exemples très connus, ça a été la Pologne ou le Chili. Mais enfin bon, ça commence à dater. Mais effectivement, à chaque fois, ça a été extrêmement coûteux par pour les finances publiques.
Mais en tout cas, Florence Legros, on ne parle pas là effectivement de passer d'un système par répartition qui est le nôtre actuellement à un système 100% par capitalisation. Et ça, voilà. Ce n'est pas de ça dont il s'agit.
Non, mais dès lors qu'il y a substitution, donc on dit je coupe un morceau des cotisations et donc je ne verse plus ou alors je ne verse pas les cotisations nécessaires au financement des pensions des pensionnés actuels, nécessairement, il va y avoir un morceau à financer. Et si je le finance pas par répartition, alors que les retraités actuels ont accumulé des droits, donc et qu'ils sont voilà, qui vont réclamer ces pensions, et ben de toute façon, il va falloir à un moment que l'argent public se substitue à ces cotisations manquantes, puisque à la place de ces cotisations manquantes, on aura opté pour un morceau de capitalisation, c'est-à-dire d'épargne.
On va revenir, Florence Legros, en détail sur cette transition potentielle. Avant cela, il faut quand même bien établir l'état des lieux, le paysage aussi qui est le nôtre en France. Marie Brière, ce qui est intéressant, c'est qu'on en fait beaucoup sur cette idée de capitalisation qui revient régulièrement dans le débat. Mais finalement, cette idée d'une épargne retraite, qui est aussi appelée retraite complémentaire ou retraite par capitalisation, donc, existe déjà en France. On parle là de 4,6% de l'épargne en 2022, qui est placée sous forme d'assurance vie ou de part d'organismes de placement collectif. Selon un rapport de la Cour des comptes paru en novembre de l'année dernière, sont 13% des actifs occupés qui détiennent un plan d'épargne retraite. Ces 13%-là, est-ce qu'il faut le déplorer dans le sens où c'est relativement modeste par rapport à nos voisins européens? Et comment on explique que finalement la sauce de la capitalisation ne prenne pas en France?
Alors c'est une excellente question. Effectivement, les gens épargnent en France. Les taux d'épargne en France sont parmi les plus élevés en Europe. Hein. On est juste derrière l'Allemagne avec 18% de taux d'épargne. Donc l'épargne est là, elle n'est pas forcément très également répartie. Donc je pense qu'il faudra revenir sur les questions d'hétérogénéité qu'on peut voir dans la population française. Mais oui, la capitalisation existe déjà de fait. Elle existe sur une base volontaire. Hein. Donc les gens peuvent placer aujourd'hui dans des produits d'épargne retraite. Vous avez cité le PER, hein, qui a été développé ou unifié avec la loi Pacte, l'assurance vie, qui est le grand champion, je dirais, de l'épargne retraite. Mais
Il y a deux petits mécanismes obligatoires, mais qui ne sont pas forcément extrêmement représentatifs, donc.
Oui, tout à fait. Il faudra qu'on en reparle de la retraite obligatoire parce que donc là je parle simplement de la retraite volontaire, mais il y a une autre forme de retraite effectivement par capitalisation obligatoire qui mériterait d'être développée. Mais les champions de l'épargne retraite, c'est pas les produits qu'on cite là. Et d'ailleurs, quand on interroge les Français, ils vous citent d'abord l'immobilier. Et leur livret bancaire. Donc en fait, les Français épargnent pour la retraite, mais par d'autres moyens que les produits d'épargne retraite. Donc,
mais alors là, c'est important. C'est intéressant et effectivement c'est très important. Marie Brière, quel est, si vous pouvez nous expliquer en quelques mots, quel est l'avantage ou en tout cas l'idée d'estampiller un produit d'épargne pour la retraite, sachant qu'on pourrait se dire à partir du moment où je mets de l'argent de côté, où je le place, effectivement, on se doute bien que ça va me servir pour mes vieux jours potentiellement. Alors pourquoi vouloir nécessairement étiqueter cette épargne comme retraite?
Alors, l'idée de l'étiquetage, c'est l'idée du blocage. C'est-à-dire qu'on veut étiqueter de l'épargne pour la retraite parce qu'on veut que les gens restent dans ces dispositifs d'épargne jusqu'à l'âge de départ à la retraite et ne consomment pas cette épargne avant. Donc ça c'est un des enjeux extrêmement importants, mais qui pose là aussi question parce que les gens aiment beaucoup avoir une épargne de précaution. Donc ils aiment avoir une poche de liquidité. Ça, c'est quelque chose qu'on a constaté, par exemple, dans le cadre de l'épargne salariale. Les gens aiment l'épargne relativement liquide, en fait, qui est disponible, même s'ils n'y touchent pas, en fait. Même si, finalement, cette épargne, ils l'accumulent jusqu'à la retraite, mais ils aiment l'idée qu'à un moment donné, ils vont pouvoir y accéder.
Et on est là, aussi, il y a une forme de paradoxe, Florence Legros, on le disait, l'épargne française, elle est relativement conséquente. On le voit, il y a cette idée qu'il est placé, alors certes, de façon la plus liquide possible, mais comment on explique que les Françaises et les Français ne se tournent pas volontairement vers les produits d'épargne retraite disponibles? Est-ce qu'il faut y voir le résultat d'une absence de nécessité qui est assez liée à notre système actuel, par par répartition, finalement, on n'a pas nécessairement besoin de trop anticiper l'avenir. Et donc, ça explique une sorte de frilosité vis-à-vis des produits d'épargne retraite.
Il y a probablement les deux, c'est-à-dire que on a un régime de retraite qui, pour l'instant, en tout cas, accorde des taux de remplacement qui sont plutôt relativement élevés. Donc qui sont décroissants avec les revenus, mais comme le disait Marie, les revenus, les gens qui ont des revenus les plus élevés ont probablement ce qu'il faut déjà en immobilier ou en autres produits d'épargne.
Toute petite parenthèse, le taux de remplacement, c'est le pourcentage de l'ancien revenu perçu une fois qu'on est à la retraite.
Exactement. Voilà. Bah, c'est le ratio entre votre pension et le dernier salaire, pour aller vite. Et donc ces taux de remplacement sont relativement élevés encore en France hein, jusqu'à présent. Puisque le régime par répartition jusqu'à présent a plutôt bien fait son travail, et mais néanmoins, donc on sait qu'il y a des besoins, et donc la raison, me semble-t-il, il y a un problème d'éducation financière qui est manifeste. Ce que disait Marie sur le blocage est tout à fait fondamental, c'est-à-dire que bloquer jusqu'à l'âge de la retraite, ça veut dire faire également des placements longs. Et là où Sophie Binet a tort sur ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que justement, dès lors qu'on allonge la durée de placement, notamment en actions, en fait, on diminue le risque financier. C'est-à-dire toutes les études montrent qu'au-delà de 25-26 ans, le risque de perte est nul quand il s'agit de détention actions. Et donc ça, c'est tout à fait fondamental. Donc ce qui est fondamental, c'est d'étiqueter effectivement et d'empêcher. Donc, que les Français aient envie d'avoir une poche de liquidité, c'est tout à fait normal pour faire face aux aléas de la vie. Mais ce qui est tout à fait fondamental, c'est néanmoins d'étiqueter de l'épargne retraite et donc de ne pas faire croire, par exemple, que de l'assurance vie, c'est un instrument qui est particulièrement bien adapté au financement de la retraite. Le livret A.
Marie Brière, sur cette question du risque, parce qu'elle est fondamentale et c'est un peu la clé de voûte aussi de la façon de raisonner. Est-ce que c'est vrai, l'investissement à long terme est nécessairement moins risqué, on va dire, et que dans le cadre de la retraite, ça s'y prête particulièrement bien? Ou est-ce qu'il faut nuancer tout de même cette idée qu'effectivement, c'est ce que disait Sophie Binet, une crise financière est vite venue et à partir de là, c'est tout qui s'envole en fumée?
Oui, alors, en moyenne, il est moins risqué. Donc, c'est tout à fait vrai ce que dit Florence, ce qu'on appelle la diversification temporelle. Donc, si vous pouviez vivre une centaine de vies, en moyenne, il est beaucoup moins risqué de placer à 50 ans que de placer à 5 ans. Mais on peut vivre une mauvaise période de vie. On peut vivre une période qui se trouve, par coïncider à un moment où la performance sur la période n'est pas positive. Donc, ça, c'est un des risques de la capitalisation. Et c'est un des intérêts de diversifier les systèmes, d'ailleurs, hein, entre répartition et capitalisation, parce qu'aucun système n'est parfait et chacun comporte des risques. Mais effectivement, il ne s'agit pas de tout transformer en capitalisation, mais une petite dose de capitalisation peut permettre de bénéficier de la croissance, en fait, des marchés financiers qui, historiquement, en tout cas sur la période récente, s'est trouvée supérieure à celle de la croissance de l'économie en France, en tout cas.
Mais on se doute bien que ce sont les ménages les plus modestes qui sont les plus à même de connaître ces périodes de difficultés où ils auraient besoin d'avoir recours à leur épargne, en tout cas de la transformer en liquidité. Donc on voit là peut-être une première notion d'inégalité. Par ailleurs, Marie Brière, il faut quand même s'interroger sur cette idée, encore une fois, d'une Arlésienne qui revient. Le gouvernement, il a déjà essayé d'inciter à la retraite par capitalisation. C'était la loi du 22 mai 2019, dite loi Pacte, qui misait tout sur une forme d'incitation fiscale. Je crois que les résultats sont un peu en demi-teinte. Il y a eu une augmentation, mais qui n'était peut-être pas aussi forte qu'espérée. Finalement, qu'est-ce que l'État attend d'une dose de capitalisation? Est-ce que c'est une façon de se défausser aussi quelque part sur un mécanisme de marché, littéralement? Ou est-ce que c'est une façon de mettre une solution sur la table? Pourquoi en 2019 il y a eu cette volonté-là?
Oui, je crois que l'idée, c'était de proposer un produit unifié et simple dans lequel les Français pourraient se retrouver et pourraient adhérer pour placer pour la retraite. Donc, il y avait l'idée d'unifier des dispositifs existants qui existaient déjà et qui, pour certains, étaient populaires, hein, comme le PERCO dans l'épargne salariale, un dispositif d'épargne retraite qui était très utilisé par les Français. Mais donc, l'idée, c'était d'unifier, de simplifier et d'inciter avec une nouvelle incitation fiscale, hein, qui, elle, n'existait pas, puisque on a eu l'introduction en 2019 de cette incitation fiscale à aller épargner, puisque vous pouviez déduire des revenus les versements faits sur les PER nouvellement créés. Alors effectivement, un bilan en demi-teinte, donc quand on regarde en fait le nombre de détenteurs, 11 millions de détenteurs aujourd'hui, hein, donc on a 119 milliards accumulés sur les PER, donc c'est loin d'être négligeable. Ça n'a pas quand même révolutionné effectivement l'épargne des Français. Nous, on l'a regardé dans le cadre de l'épargne salariale chez Amundi, parce qu'on a la chance de pouvoir examiner ce que les gens ont fait dans le cadre de simplement de l'épargne salariale. Il y a d'autres PER. On a trouvé un impact de 150 euros par individu et par an d'épargne supplémentaire sur ce type de dispositif. Donc voilà, ça va pas complètement bouleverser l'épargne.
Et puis du point de vue du bilan aussi, Florence Legros, la Cour des comptes l'a fait, hein, ce bilan de façon chiffrée et très précise. Elle constate que l'épargne retraite, et là je la cite mot pour mot, est avant toute chose un instrument de placement et d'épargne dont la fiscalité avantageuse permet à des épargnants aisés et relativement âgés de bénéficier d'avantages fiscaux. Finalement, il y a cette question de se dire que si l'épargne reste faible, c'est que tout simplement tout le monde n'a pas les moyens de l'abonder et que la méthode de l'incitation fiscale ne risque de reproduire les inégalités déjà existantes.
Oui, alors, à nouveau, hein, il faut rappeler que le taux d'épargne français est un des plus élevés des pays de l'OCDE.
Donc, c'est une
ça a déjà été signalé. Oui. Donc, voilà. Et que c'est pas, que les plus modestes ont eu des taux d'épargne relativement en croissance ces dernières années. Donc, mais effectivement, on voit bien que dès lors qu'il s'agit de ce type de placement pour, en vue de la retraite, c'est plutôt les plus aisés qui, mécaniquement, y ont intérêt, évidemment pour des raisons fiscales, mais également parce que leurs taux de remplacement à eux seront plus bas que ceux des retraités les moins aisés. Et j'ajouterais une chose aussi dont on pourrait parler, c'est que une des raisons d'inciter à l'épargne longue, et c'est également pour désintermédier le financement de l'économie. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est que l'épargne longue est plus investie en actions et qu'en fait c'est meilleur pour l'économie. Donc c'est aussi la raison pour laquelle le gouvernement a souhaité, via la loi Pacte, donc comme disait Marie, unifier, simplifier le régime.
C'est extrêmement intéressant, Marie Brière, parce qu'on arrive là à une double fonction finalement de cette épargne retraite. Alors il y a certes l'idée de tout simplement d'assurer les vieux jours des retraités, mais aussi cette idée de rendre cet argent plus productif encore, de le permettre d'être investi, de financer l'investissement dans un certain nombre d'entreprises. C'est notamment la proposition que faisait Gabriel Attal le 11 novembre dernier. Est-ce que ça fait pas trop pour un seul et même tuyau finalement que serait cette épargne retraite?
Alors, je voudrais juste rappeler que l'épargne, même quand elle est sur un livret, même qu'elle est dans un fonds en euros en assurance vie, elle est productive. Hein. Elle est productive parce que l'assureur ou le banquier n'en fait pas rien de cette épargne. Il la place, il finance des entreprises. Donc là, je pense qu'il y a une... Enfin, on entend beaucoup de choses dans le débat public, mais c'est une incompréhension de ce que font réellement les institutions financières qui transforment cette épargne et qui l'investissent.
Ce n'est pas de l'argent qui dort.
C'est pas de l'argent qui dort. Après, c'est la question du fléchage de cette épargne. Parce que on peut vouloir la flécher sur un certain nombre de transitions. On parle beaucoup de la transition climatique, de la transition numérique. C'est vrai qu'on veut financer un certain nombre d'investissements en France et on peut vouloir flécher cette épargne et donc et clairement l'épargne retraite qui est une épargne longue peut avoir un intérêt pour ce fléchage.
Florence Legros, dernière question avant la fin de cette émission et pour, je l'avais dit, on va essayer d'apprendre des leçons, peut-être des expériences du passé. Qu'est-ce qui s'était passé lors de la création du fonds de réserve pour les retraites par Pierre Bérégovoy qui était alors ministre de Jacques Chirac? Est-ce que cela non plus, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Quelles leçons on peut en tirer en termes de peut-être de système un peu plus obligatoire et de système mixte où il y aurait une dose un peu d'obligation et non pas uniquement d'incitation des bonnes volontés.
Au départ, l'idée était assez géniale. Hein. C'était d'affecter des produits de privatisation d'un certain nombre d'entreprises françaises. Et Pierre Bérégovoy trouvait que c'était l'argent des Français et que donc l'idée, c'était de créer ce qu'il avait appelé un fonds tunnel. Alors attention, hein, le fonds tunnel avait pas pour vocation de limiter la hausse des cotisations, mais de la lisser, ce qui est extrêmement différent. Et donc, tout le monde à l'époque s'était amusé à faire le calcul et l'idée, enfin on était tous tombés sur le même chiffre, c'est-à-dire 150 milliards d'euros. Et en fait, il n'y a jamais eu 150 milliards d'euros dans ce fonds qui est devenu le fonds de réserve des retraites et qui a été aussi utilisé, alors pour financer de la retraite, mais qui a été utilisé dans l'optique initiale. Donc en particulier, ça a été utilisé pour financer la transition sur les retraites chez EDF. Donc Donc, en fait, aujourd'hui, le fonds de réserve des retraites, c'est 20 milliards d'euros. C'est pas négligeable, mais c'est loin de ce qui était nécessaire pour une utilisation telle que c'était prévu au départ.
Marie Brière, sur cette idée d'instaurer une forme, un pilier obligatoire, on va dire, par capitalisation, en plus du système actuellement présent par répartition, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour le rendre efficace? Et par efficace, j'entends évidemment égalitaire, équitable aussi.
Oui, on l'a évoqué, un des problèmes de la retraite volontaire, et notamment des incitations fiscales individuelles, c'est l'inéquité potentielle, et on l'a souligné, les plus fortunés, les plus âgés en ont plus bénéficié. L'intérêt d'un système obligatoire, c'est que tous en bénéficient. Et cette incitation fiscale, au lieu de la proposer pour les individus, pour qu'ils épargnent pour la retraite, on peut aussi la proposer pour les entreprises. Alors, c'est ce que la France a fait, hein, avec la loi PACTE pour les petites entreprises. On pourrait imaginer que ce soit généralisé. En mettant l'incitation au niveau des entreprises, on a le mérite que ce type d'épargne retraite bénéficie à tout le monde. Et je pense qu'il faut avoir bien en tête qu'obligatoire veut aussi dire une forme potentiellement de collectif et donc de partage des risques, hein. Dans des systèmes de retraite obligatoire, on va pouvoir partager des risques entre des générations ou au sein d'une génération. Ce qu'on ne peut pas faire dans la retraite individuelle où, par définition, vous investissez pour vous et vous allez prendre intégralement les risques de marché, les risques de longévité potentiellement si vous ne transformez pas en rente, etc. Donc, obligatoire veut dire aussi potentiellement collectif.
Et de toute façon, ça pose la question de la répartition aussi de cet argent. Soit il n'y a pas 36 solutions, soit on augmente les cotisations déjà existantes pour pouvoir financer ce nouveau pilier obligatoire par capitalisation, soit il y a un jeu de vases communicants et il faut baisser les cotisations déjà existantes pour les redistribuer, on va dire, vers la capitalisation, ce qui pose quand même
le problème de la transition.
De la transition, ouais. Et une question éminemment démocratique et sociale aussi. Merci beaucoup Florence Legros et Marie Brière d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, on remonte l'histoire pour mieux comprendre l'économie telle qu'elle se présente à nous aujourd'hui. C'est la deuxième partie d'Entendez-vous l'écho.